Il est 19h15, nous allons pouvoir commencer notre soirée. Donc bienvenue au Centre Sèvres pour ce mardi d'éthique publique consacré à la situation à l'est de l'Europe, cette guerre en Ukraine qui est entrée dans son 9e mois. Première guerre d'une telle ampleur, une telle intensité en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Europe avait connu certainement des conflits locaux, mais qui restaient confinés en général à un nombre limité de partenaires. On peut se rappeler quand même que le territoire ukrainien connaît un état de guerre depuis 2014. La guerre n'a pas commencé au sens strict le 24 février 2022. Mais elle a pris une autre ampleur, comme on sait. Et surtout, les conflits que nous avions connus en Europe, c'est à la Yougoslavie, n'impliquaient pas, comme c'est le cas maintenant, la menace nucléaire. Cette crise pose des questions nouvelles qu'il nous faut aborder ensemble. D'abord, c'est une crise de l'Europe. L'Union européenne s'était construite dans l'espoir d'instaurer des relations pacifiques grâce à la coopération économique. Après la disparition du rideau de fer en 1989, suivi par la chute de l'Union soviétique 2 ans plus tard, on pouvait imaginer qu'allait se mettre en place une mondialisation, une européanisation heureuse grâce à un réseau de plus en plus serré d'interdépendance. N'assistons-nous pas aujourd'hui à un retour du politique sous sa forme la plus violente? La Russie n'avait aucun intérêt à entreprendre une telle guerre. Elle a certainement beaucoup à y perdre, elle a déjà perdu, et pourtant elle l'a fait. Un autre ensemble de questions, qui rejoint la précédente, porte sur la défense. Nous pensions vivre dans un monde de plus en plus apaisé. Les conflits étaient limités à de lointains conflits. Bien sûr, l'armée était engagée, mais loin de nos frontières, pour une bonne part, en dehors des patrouilles vigipirates. On pouvait envisager de baisser les dépenses militaires, c'est ce qu'a fait l'Ukraine, du reste, avant 2014. Avons-nous encore besoin de nous défendre en employant des moyens militaires classiques, conventionnels ou non conventionnels? La question de la défense revient de manière forte aujourd'hui. Pour aborder ces questions, nous proposons 2 types d'interventions et 2 types de questions, comme j'ai mentionné. Tout d'abord, 2 étudiants du Centre Sèvres, dont l'un est originaire d'un pays limitrophe de l'Ukraine, nous partagerons leur regard sur la situation présente. Prendront ensuite la parole, en écho aux propos précédents, 2 experts, l'un sur l'Europe et l'autre sur les questions de défense, que je remercie d'être présent parmi nous, et je laisse à Vincent de Féligonde le soin de présenter nos intervenants et d'animer cette soirée.
Merci François. Comme vous venez de le dire, on va commencer par l'interrogation de 2 étudiants jésuites. Donc André Roman, vous êtes jésuite en formation de nationalité roumaine. Vous êtes étudiant à l'Institut supérieur de théologie, le Theologicum à la Cato. Et donc vous avez séjourné évidemment à proximité de la frontière ukrainienne. Est-ce que vous pouvez nous donner votre témoignage?
Merci. Père recteur du Centre Sèvres, chers invités, chers étudiants, madame et monsieur. La guerre en Ukraine est une réalité que nous ne pouvons ignorer dans un monde globalisé et transformé, mais surtout en tant qu'habitant du continent européen. Je m'appelle André Roman et je suis un jésuite appartenant à la communauté du Centre Sèvres. Dans ce qui suit, je vais présenter ma brève expérience concernant les réfugiés ukrainiens en Roumanie. Jusqu'en juin 2022, j'ai vécu en Roumanie, étant dans une période de formation au niveau pastoral, ce qui dans la compagnie de Jésus est appelé régence. L'année dernière, j'ai eu l'occasion de me rendre chaque week-end dans une ville située près de la frontière avec l'Ukraine et la Hongrie, une ville appelée Satu Mare. La Compagnie de Jésus y a une paroisse sous sa responsabilité. J'ai été envoyé par mes supérieurs pour des raisons pastorales, me consacrant à la catéchèse dans la paroisse qui s'appelle Calvaria, avec des enfants pauvres et dans deux villages voisins. Depuis le premier jour de la guerre en Ukraine, la paroisse Calvaria de Satumare s'est employée à aider les personnes venant de l'Ukraine occupée. Dans ce contexte, j'ai rejoint mon confrère jésuite, le curé de l'église Calvaria à Satumare, pour collaborer avec les volontaires de la Croix-Rouge qui se sont rendus à post-frontière avec la Hongrie. Comme nous le savons, la grande majorité de réfugiés ukrainiens viennent de transiter par la Roumanie, dans en espérant de rejoindre l'Allemagne, la France, l'Italie, etc. Ce qui m'a frappé en mars, c'est la multitude d'enfants, parfois très jeunes, accompagnés de leurs mères et de personnes âgées. C'est pourquoi une aire de jeu a été installée dans la zone neutre du poste frontière pour la multitude d'enfants qui étaient du passage. Et pour passer le poste frontière vers la Hongrie, il a fallu attendre 24 heures dans le froid et l'attente, et la température était environ 0 degré. Pour soutenir ces enfants, la paroisse Calvaria a lancé une collecte de vêtements et de jouets pour les enfants d'Ukraine qui passaient par le poste frontière où nous étions en service. Nous avons fait cette campagne de sensibilisation lors de la catéchèse organisée à Calvaria pendant la messe de dimanche, et c'est la générosité qui a prévalu. La collaboration avec la Croix-Rouge m'a permis de rencontrer des étudiants d'Allemagne et de Suisse, mes volontaires roumains aussi, venus travailler dans une cuisine roulante pour les réfugiés dont le nombre nécessaire d'augmenter en ce début de mars incertain et anxieux. Le seul espoir concret était le sourire des enfants ukrainiens et la disponibilité de mes enfants et des jeunes de la paroisse Calvaria à Satumare. Ma brève expérience m'a montré la solidarité et la sensibilité des jeunes roumains prêtes à aider ceux qui sont en grande difficulté dans le contexte de la guerre en Ukraine. Merci.
Merci beaucoup, André. Maintenant, je vais donner la parole à Étienne de Forge, qui est jésuite en formation, lui aussi, mais qui est, lui, étudiant au Centre Sèvres, en troisième cycle, intégré, et vous êtes ingénieur en télécom.
Merci. Alors, donc, je ne suis pas du tout un spécialiste. Donc, ce que je vais dire, c'est plutôt quelque chose entre le biais d'humeur et le rapport d'étonnement, on pourrait dire. Puis j'ai pas non plus une grande expérience de la prise de parole en public, donc j'espère que vous m'excuserez si je m'appuie sur des notes. Ça fait 8 mois et 8 ans qu'il y a la guerre en Ukraine, mais le titre de cette conférence, Écouter nos peurs, m'étonnait au premier abord, parce que je pense pas que la guerre en Ukraine en elle-même me fasse vraiment peur. Sans doute parce que une partie des enjeux géopolitiques, technologiques et économiques m'échappent. Il y a bien la crainte nucléaire, quelque part au fond de mon cerveau, mais au quotidien, elle se manifeste peu. Donc purement au niveau du conflit, j'ai pas beaucoup plus peur de la guerre en Ukraine que de la guerre au Yémen, que de la guerre en Éthiopie, que des incidents à la frontière de l'Inde et du Pakistan. L'absence de peur n'empêche pas, par contre, la présence réelle d'autres émotions. Par contre, ce que je me suis trouvé à redouter ces derniers mois, c'est la façon dont les sociétés occidentales appréhendent cette guerre et conséquences que ça a sur, pour garder un terme général, nos représentations de nous-mêmes. L'invasion russe de l'Ukraine est évidemment quelque chose de mauvais, mais ça vient frapper beaucoup de choses dans nos a priori culturels. Ce qui fait qu'elle est représentée de façon extrêmement binaire, il me semble. Dans la culture de masse, ou au moins dans les sphères que je fréquente, donc une partie de la culture internet en français et en anglais, mais aussi les grands médias en France, il y a quand même un discours très généralisé. L'invasion russe, c'est le mal. C'est ce que j'ai l'impression d'entendre. Mais c'est une formulation qu'ils ne mettent pas du tout. C'est très proche de quelque chose qui est évidemment vrai. L'invasion russe est un mal, un très grand mal même. Mais ça ne permet pas du tout de réfléchir. Ça ne m'aide pas à comprendre pourquoi la Russie agit comme cela. Aussi moralement corrompu qu'on peut croire que Poutine soit, c'est probablement pas une décision qu'il a prise en descendant du lit un matin. Il y a quand même des vraies raisons qui l'ont poussé à poser des actes qui pénalisent aussi son pays. Mais surtout, ça ne nous aide pas du tout à réfléchir à notre propre positionnement. Si Poutine est le mal, nous, d'ailleurs qui est ce nous, nous serions le bien, dans un habile effet de miroir. C'est évidemment pas le cas. Je crois qu'il suffit de regarder les dernières entreprises militaires occidentales pour se douter que c'est plus compliqué. Et puis en plus, se dire que parce qu'on combat le mal, nous sommes le bien, c'est une erreur de logique formelle. Donc j'aimerais souligner rapidement trois points. Le premier point, c'est que je crois que cette représentation sape vraiment les valeurs que l'Occident essaye de promouvoir dans le monde entier. Parce que se représenter comme le bien, c'est se positionner de manière fausse ou incomplète. Nous sommes dans l'incapacité de regarder le mal parmi nous, les agents cyniques qui utilisent ce conflit, et il y en a en Occident. Par exemple, une grande partie du secteur de l'armement se réjouit publiquement de la durée de cette guerre. Voilà. On pourrait en citer d'autres. Par exemple, on sait, et on l'a vu ces dernières années, qu'il y a depuis longtemps un parti du département d'État américain partisan d'une guerre avec la Russie, et qui se réjouit de la voir se prolonger. Mieux vaut que ce soit l'Ukraine qui saigne que nous, a-t-on pu entendre. Et dans un conflit qui est aussi un conflit de valeurs, et c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les discours de Vladimir Poutine, ou en tout cas un conflit qui est présenté aussi comme un conflit de valeurs, c'est blesser la crédibilité de notre système politique et moral que de renoncer à identifier les acteurs en notre sein qui ont cette attitude cynique. Donc pourquoi l'opinion publique en Inde, au Brésil, aux Philippines, qui sont quand même des gros pays, n'est-elle pas du tout du côté des démocraties libérales? J'ai l'impression que c'est en partie parce que nos valeurs apparaissent de plus en plus comme des façades. Et ça m'inquiète. Un deuxième point, c'est l'utilisation du conflit pour masquer des problématiques de politique intérieure. Ce mécanisme de décrédibilisation de nos valeurs, il marche aussi à l'intérieur de nos démocraties. Et l'optique bien contre mal ne nous fait-elle pas aussi passer sous silence les usages cyniques dirigés vers nous-mêmes? On pourrait citer par exemple M. Johnson, qui, quand il était Premier ministre en Grande-Bretagne, a utilisé le conflit pour essayer de prolonger la durée de son mandat, ou l'utilisation que fait le Parti démocrate du conflit comme argument de campagne, alors même que la grande majorité du Parti républicain soutient les nombreuses voies d'aide et de financement du gouvernement ukrainien. Depuis plusieurs années, on constate que nos démocraties sont en crise. C'est vrai. Alors laisser des personnes au pouvoir utiliser des arguments moraux fallacieux pour leurs propres fins politiques, ça n'aide sûrement pas. Ça me fait peur aussi. Et puis un troisième point, c'est voir à quel point cette opposition bien mal nous fascine. vis-à-vis de la mort. Hein? Se représenter nous-mêmes comme le bien, c'est un engrenage qui nous pousse à se réjouir de la chute de nos adversaires. Je crois qu'il y a une différence certaine entre souhaiter la victoire contre son ennemi et souhaiter la souffrance de son ennemi. Les images de victimes ukrainiennes nous choquent et à raison, mais je crois que cela doit rester vrai de toutes les victimes du conflit, donc aussi des Russes. Et avoir cette compassion ne légitime aucunement les décisions du gouvernement russe ou de Vladimir Poutine ou de ses généraux. Mais nous ne sommes ni des combattants, ni même des Ukrainiens, ni même d'Europe de l'Est. Et j'ai pas l'impression que nous ayons des raisons de voir des cadavres russes avec autre chose que de la pitié. La normalisation de la violence, la guerre comme spectacle, mais tant que ce sont nos alliés qui sont les héros, c'est une culture de la mort. Et me voir moi-même fasciné parfois, ça me fait très peur. Un autre jour, il y avait cette vidéo virale d'un soldat conscrit russe qui fuit de terreur devant un drone ukrainien. Et dans les commentaires, des gens qui se moquent de lui, hein, qui parlent de lui comme d'un animal. Je comprends bien que la compassion est un luxe qu'un combattant ne peut pas se permettre, mais quand, comme moi, on ne l'est pas, c'est obscène. Voilà, donc, la décrédibilisation de nos valeurs, l'usage cynique de la guerre pour des questions de politique intérieure, la fascination de la mort, c'est trois points qui m'inquiètent et qui me semblent faire collectivement barrage à l'espoir d'une paix qui serait acceptable pour les deux camps. Je ne sais pas si une telle paix est possible, mais je crois que c'est quand même ce qu'il faut souhaiter. Je suis né en 94, donc j'ai pas énormément de recul sur des conflits armés en Europe, en particulier quand ils concernent des grandes puissances. Mais j'ai quand même le souvenir de nombreux conflits où la France était plus ou moins impliquée. Voilà. Mais en tant qu'enfant, principalement. Donc, sans doute, dans ce que j'ai relevé, il y a des choses qui sont pas du tout spécifiques à ce conflit. Voilà. Je crois qu'il y a aussi des choses qui sont liées aux fractures présentes de la société française, fractures politiques, fractures culturelles, fractures médiatiques aussi.
Merci Étienne pour ces questions très stimulantes. On va commencer avec Sébastien Maillard. On se connaît très bien puisque nous avons travaillé ensemble à La Croix, dont je te tutoyais quand même. Tu as été correspondant à Bruxelles entre 2007 et 2010, puis sous-chef du service international que je dirigeais, puis correspondant au Vatican entre 2013 et 2016. Et depuis 2017, tu es directeur de l'Institut Jacques Delors, un laboratoire d'idées qui vise à faire avancer l'idée, à faire avancer même l'intégration européenne. Et ce qui t'a poussé à franchir le pas, c'est le Brexit et l'élection de Donald Trump qui ont plongé l'Europe dans une crise existentielle. On pensait qu'il y aurait un effet domino, rappelles-tu. Pour expliquer ce choix, tu utilises l'image d'un journaliste sportif qui verrait trébucher un champion qu'il a beaucoup suivi. Soit il lui vient en aide, soit il commente sa chute. Et tu dis, j'ai préféré venir en aide à l'Europe. Au vrai, l'Europe te passionne depuis ton entrée à La Croix en 2000. Ton premier article dans La Croix portait sur l'entrée de la Grèce dans la zone euro. Et en 2013, avant de partir pour Rome, tu as écrit un premier livre, Qu'avons-nous fait de l'Europe ? À travers 5 lettres à Robert Schuman, un des pères de la construction européenne, tu cherchais à revenir à la source. Pourquoi faire l'Europe ? Et à ton retour de Rome, tu as rédigé un livre d'entretien avec Enrico Letta, l'ancien premier ministre italien, qui était en train de prendre ou qui venait de prendre la présidence de l'Institut Jacques Delors. Vous avez fait plus connaissance et fait affaire, ce qui t'a conduit à passer de l'autre côté du miroir. Tu dis avoir changé de métier, mais pas d'univers. Tu rappelles d'ailleurs que La Croix est le journal préféré de Jacques Delors. En tout cas, tu as gardé le sens des titres accrocheurs, et en l'occurrence prémonitoires, puisque le livre s'intitulait « Faire l'Europe dans un monde de brutes ». Alors, ce que tu m'as raconté, c'est que quand tu en as parlé à Eric Colletta de cette idée de titre, il a tiqué. Parce que, en italien, brutti signifie laid, si je comprends bien. Alors, effectivement, les brutes sont souvent laides. Et ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, le titre du livre qui a été traduit en italien, c'est pas un monde de brutes, mais contre vents et marées. Et ce qui est marrant, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de marée en Italie puisque c'est la Méditerranée. Voilà, je te laisse la parole.
Merci Vincent pour ce portrait très fidèle, c'est-à-dire ce que tu as rappelé. J'ai merci pour cette invitation et de retrouver le Centre Sèvres. Et on se retrouve dans un moment particulièrement grave, c'est ce que si on doit écouter nos peurs, c'est que oui, on est quand même chaque jour, je pense, meurtri par tout ce qu'on entend et les pas seulement les bruits de bottes, mais même les rumeurs de d'emballement, d'escalade, de nucléaire, des choses que, et même sans être, on est en est quand même bien avant 94, pas quand même des choses à laquelle du tout on était habitué. Moi, je voudrais pas opposer forcément les bons et les mauvais ou les gentils et les méchants. Mais effectivement, la guerre et la paix, parce que c'est cette période que l'on vit, nous interroge sur qu'est-ce qui fonde la paix et qu'est-ce qui fait qu'on est en guerre. Comme beaucoup, j'ai ce qui m'a séduit dans le projet européen et ce qui me séduit toujours, c'est qu'il a toujours été, par définition, synonyme de paix. Et je crois que ce qui nous a complètement pris de court et ce qui nous a surpris, et peut-être effectivement du coup fait peur, c'est qu'on ne croyait plus du tout à la guerre, puisque par définition l'Europe a été construite, et c'est les paroles mêmes de Robert Schuman dans sa déclaration, pour rendre la guerre impensable. Donc elle était complètement sortie de nos pensées. Certes, on a eu, et je pense bien sûr à l'ex-Yougoslavie, des conflits locaux, mais c'était quand même pas un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, une puissance nucléaire qui voulait envahir la totalité d'un pays de la taille de l'Ukraine, ce que l'on vit aujourd'hui. Donc la guerre nous est devenue impensable. D'ailleurs, on ne voulait pas y croire, puisque jusqu'à quasiment la veille du 24 février, c'était d'ailleurs un peu un débat aussi sur l'efficacité ou pas de nos services de renseignement, mais on s'est dit... Non, il va quand même pas le faire, ça. On ne voulait pas y croire. Donc la guerre est vraiment devenue impensable et, pour toujours citer Schuman, matériellement impossible. Donc, et je crois qu'elle est vraiment devenue entre nous, en tous les cas, au sein des 27 de l'Union européenne aujourd'hui. La guerre est devenue impensable, j'ose le croire, avec l'Italie, l'Espagne, la Belgique ou l'Allemagne, et je pourrais citer tous les pays de l'Union. En plus, le traité prévoit avec l'article 42.7 une assistance mutuelle entre nous. Je laisserai au général peut-être distinguer ça de l'article 5 de l'OTAN, mais en tout cas, on doit se porter assistance. Mais qu'est-ce qui fait que, pourquoi est-ce que la guerre est devenue impensable? Pourquoi est-ce que quand l'Union européenne a reçu le prix Nobel de la paix en 2012, ça ne nous a pas beaucoup ému plus que ça, parce que ça nous paraissait... soit c'est un peu tardif, en tout cas d'une évidence telle qu'on n'y pensait même plus, parce que peut-être que la paix aussi était devenue un peu impensable, au sens où on n'y pensait plus. Et je crois que les trois fondements qui font l'Union européenne, qui font de la paix en Europe, et par contraste expliquent peut-être la guerre survenue à l'autre bout du continent, c'est que cette paix européenne repose sur quoi? C'est pas simplement le fait que l'OTAN nous garantit la sécurité et qu'on est sous le parapluie américain, ou que nous en France on possède la puissance nucléaire et la dissuasion nucléaire. Ce qui fait aussi la paix profonde entre les pays européens, c'est trois choses. D'une part, et c'est important de le rappeler parce que là aussi ça passe presque un peu maintenant comme une évidence, mais la réconciliation entre nos nations, le fait que nous n'ayons pas voulu répéter l'erreur de l'après-Première Guerre mondiale, du dictat du traité de Versailles, enfin tout ce qu'on... Souvenez-vous que après 1945, il y avait des velléités en France, en tout cas, de reprendre la SAR, de réoccuper aussi une partie de cela. Donc il y avait, on était encore peut-être pris sur un esprit de revanche contre les Boches, comme on disait. Donc il fallait surmonter ça. Pas seulement réconciliation entre contre nos propres envies de puissance, mais je pense aussi, peut-être c'est un aspect moins connu de la construction européenne, c'est que non seulement c'est construite sur les ruines de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, mais aussi un peu sur les ruines de nos empires. Je pense pas seulement à l'Empire français, mais à l'Empire belge, néerlandais. Les Pays-Bas ont rejoint la CECA aussi parce qu'ils étaient en train de perdre l'Indonésie, ce qui est devenu l'Indonésie. Je pourrais multiplier les exemples. Il y a beaucoup d'empires dans ce qui constitue, beaucoup d'anciens empires dans ce qui constitue aujourd'hui l'Union européenne. Et ça permettait de surmonter, de dépasser et de réinventer un autre rapport au monde et entre nous. Donc ça, c'est la première pilier. C'est pas simplement la réconciliation franco-allemande qui est, on le sait, et peut-être la première, celle de Robert Schuman, justement, mais aussi, je pense à la réconciliation entre l'Allemagne et la Pologne, entre le Royaume-Uni et l'Irlande, entre la Slovénie et la Croatie, entre différents pays qui... C'est un impératif pour rentrer dans l'Union européenne. Vous devez vous réconcilier avec vos voisins. Ça fait partie des critères. Et puis le deuxième critère qui fonde cette paix, mais là aussi qui est peut-être à double tranchant, c'est l'interdépendance. Nous sommes foncièrement interdépendants. On le voit d'ailleurs tous les jours. On a vu pendant la guerre du Covid, la crise du Covid, dès qu'on manque quelque chose, dès qu'on manque dès qu'une chaîne d'approvisionnement est un grain de sable, tout de suite on voit bien qu'on dépend des uns des autres. Et donc les échanges entre nos pays, c'est peut-être aussi la théorie du doux commerce, mais en tous les cas, les échanges sont bien plus importants entre la France et l'Allemagne qu'entre d'autres partenaires. L'Italie échange plus avec l'Autriche qu'avec la Russie. Et donc, c'est tout cela, la force de ces échanges très aujourd'hui libéralisés entre nos pays qui font le marché intérieur, des œuvres de Jacques Delors, qui font qu'on a cette interdépendance, non pas subie, mais voulue, organisée et régulée. Et puis le troisième facteur de paix, et ça je l'ai vraiment compris quand j'étais en Belgique, c'est la primauté du droit. Le fait que nos rapports ne sont plus normalement des rapports de force, mais que la force de l'idée européenne, c'est de se soumettre au droit, d'être sous l'empire du droit. S'il y a un empire, c'est celui du droit. Et d'ailleurs, l'Union européenne, comme vous savez, est constituée, personne n'est forcé d'y rentrer, c'est une démarche volontaire de chacun des pays, d'y rentrer, même, on a vu, même d'en sortir, et de se passer cet empire du droit, ce qui est une vraie protection pour les, entre guillemets, petits pays. Lorsque vous êtes estonien, letton, maltais, bénéluxien, eh bien, vous savez que c'est pas forcément la France et l'Allemagne qui vont vous imposer leur bon vouloir. Et beaucoup d'exemples, on pourrait mettre les pieds, font voir qu'on se place sous cette primauté du droit européen. Et d'ailleurs, moi, une des peurs que j'avais pendant l'élection présidentielle française, c'était la remise en cause de cette primauté du droit européen qui est un vrai détricotage de ce qui fonde, en fait, la paix aussi entre nos nations, puisqu'on accepte de se soumettre à un droit européen qui n'est pas un droit étranger, ce n'est pas un droit qui nous tombe dessus, c'est un droit auquel nous contribuons et directement, est un droit tout à fait démocratiquement constitué, mais ça, on pourrait y revenir dans le débat. Et donc, par contraste, en fait, si on regarde ces rapports que nous avons entre nous par rapport à les rapports entre la Russie et l'Ukraine, on voit bien qu'effectivement, on est complètement presque l'inverse. Aucune réconciliation, la chute de l'URSS, jamais on a vu la Russie entreprendre une démarche, de réconciliation avec ses voisins ou de repentance ou de quoi que ce soit. Plutôt un esprit de revanche et un esprit impérial, ne s'est jamais départi. D'autre part, l'interdépendance, il n'y en a pas. Il y a des rapports de dépendance qui sont très exploités entre ceux qui ont le pétrole et le gaz et ceux qui doivent, par lequel ça doit transiter. C'est tout le jeu qu'on a pu voir sur l'énergie. Et finalement, si on regarde au fil des années, les échanges économiques entre la Russie et l'Ukraine ont été en diminuant. Et la Russie et l'Ukraine, indépendamment, échangent beaucoup plus séparément avec l'Union européenne qu'entre elles. D'ailleurs, ils n'auraient peut-être pas aussi beaucoup de choses à échanger. Donc, il n'y a pas cette interdépendance au sens positif du terme qui peut être un facteur de paix. Et puis, le rapport au droit, c'est moins qu'on puisse dire, et on voit bien dans cette guerre qui piétine tous les principes, y compris du droit de la guerre, et les principes du droit international, enfin, début jusqu'à la fin, il n'y a pas la moindre respect de n'importe quelle forme de droit. Et donc, tout ça, effectivement, est une énorme source d'insécurité et a pu déclencher cette guerre. En tout cas, il n'y a aucun de ces trois fondements que, pour moi, fondent la paix européenne, ne se trouvait dans cette partie du continent. Et pour autant, on a été surpris. Et je crois que c'est pour les Européens du côté de l'Union européenne, effectivement, une interrogation. Puisque on se dit finalement notre modèle ne fait pas envie à grand monde. Alors il y a des pays qui veulent nous rejoindre. C'était frappant de voir que dès le lendemain, quelques jours après que la guerre a été déclarée, on a reçu 3 demandes d'adhésion en une seule semaine de l'Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie. Donc on attire. Et en même temps, ce qui fait la paix entre nous. Et aujourd'hui remis en cause, en tout cas ça oblige l'Union européenne à pas seulement se définir comme un projet de paix mais aussi comme un projet de puissance, les deux n'étant pas forcément antinomiques, même si au départ l'Union européenne a été bâtie contre le désir de puissance. Mais là il s'agit d'être une union respectée, en tout cas qui se rend bien compte qu'elle a des ennemis, en tout cas qu'elle est prise pour ennemi. Et qu'on voit bien que cette guerre que livre Vladimir Poutine en Ukraine, moi, me semble quand même beaucoup plus proche que la guerre en Érythrée, Tigré, parce que on voit bien que derrière, c'est le modèle de démocratie libérale auquel aspire l'Ukraine qui est visé et qui ne doit pas être dans cette. La Russie considère sa sphère d'influence ne peut pas être à ses portes. Et donc oui, cette guerre nous concerne directement et elle est en train de nous faire changer considérablement. On pourra y revenir. Mais c'est la première fois que nous prenons autant de sanctions sur un seul pays, que nous envoyons des armes à l'Ukraine. Que l'Allemagne reprend son budget de défense. Et donc, comme dit le représentant Joseph Borrell, qu'on doit nous-mêmes apprendre le langage de la puissance. Mais de quel type de puissance nous voulons être ? Il ne s'agit pas d'être une puissance prédatrice, une puissance conquérante, mais être suffisamment fort pour faire en sorte que ce que l'on... les piliers de la paix que j'écrivais soient préservés et respectés. C'est tout l'enjeu de nos rapports aujourd'hui avec la Chine ou avec d'autres puissances, parce qu'il n'y a pas que la guerre directement armée qui est en jeu. Mais on voit bien que tout ce qui, en somme, là, ça oblige l'Europe, qui s'est toujours voulu le continent ouvert de la libre circulation, du marché où l'on peut venir investir librement, où l'on peut faire commerce. Comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à protéger notre ouverture ? C'est ça le dilemme. Protéger notre ouverture. Non pas être protectionniste, c'est un peu contre notre nature dans la façon dont l'Europe s'est construite, mais arriver que notre ouverture ne soit pas exploitée à notre insu ou contre nous. Et c'est ce qui me frappe, moi, dans ces dernières années, quand je regarde les projets de la Commission européenne, c'est qu'ils sont tous tournés aujourd'hui vers, en tout cas une bonne partie, pour essayer de limiter nos dépendances, limiter nos vulnérabilités, faire en sorte que nous ne retrouvions pas aussi vulnérables que aussi bien cette guerre le montre, et je pense, je terminerai par là, que l'Allemagne aujourd'hui est sans doute le pays qui ressent cela le plus directement, puisque ça met à nu en fait trois vulnérabilités très fortes. La première, effectivement, elle le voit directement sur l'énergie, avec une dépendance au gaz russe bon marché dont elle doit se défaire. Globalement, on y arrive. En européen, on est passé de 40 à 8% en quelques mois de dépendance au gaz russe. Mais à quel prix? Le gaz, on sait, a vu son prix flamber. Mais pour l'Allemagne, c'est directement impactant pour son industrie. Et puis, dépendance vis-à-vis des États-Unis pour sa sécurité, et donc besoin de moderniser sa propre armée. Et puis dépendance commerciale à l'exportation, conduit le chancelier allemand à aller en Chine, quoi qu'en disent ses partenaires ou c'est même sa coalition. Donc on voit bien cette triple dépendance peut nous rendre très vulnérables et peut à terme effectivement atteindre la paix sur laquelle on a voulu fonder la construction européenne. Donc oui, il y a de quoi être inquiet, il y a de quoi avoir peur. Mais il y a aussi de quoi donner un nouveau sens au projet européen.
Merci Sébastien. On voit que vous n'êtes pas nécessairement extrêmement d'accord avec Étienne, donc ça peut être intéressant. Général Price Randy, vous avez 61 ans, vous avez embrassé la carrière militaire à l'issue de votre service militaire, au cours duquel vous avez été impressionné par, je cite, « la richesse d'encadrement, le respect des soldats que nous étions ». Par vos supérieurs. Vous avez donc logiquement fait Saint-Cyr, puis mené une carrière qui a reposé sur deux pieds. Un pied opérationnel, vous êtes allé jusqu'à commander un bataillon, au cours de laquelle vous avez été en opération extérieure, notamment à Djibouti, au Tchad et au Kosovo. Et un deuxième pied académique, qui vous a mené à avoir un DEA d'histoire, un master de relations internationales, et enfin, un doctorat d'histoire défense-sécurité sur les transformations de l'institution militaire espagnole, contemporaine, pardon, et devenir, en 2014, rédacteur en chef de la revue de la Défense nationale, une revue qui est écrite en 1939, et dont le numéro vient de sortir. Donc là, vous venez de me le donner, il vient de sortir, et il y a un des articles qui porte sur quelle implication doctrinale d'un conflit de haute intensité en Europe, donc là évidemment ça parle de l'Ukraine, et vous me dites que le numéro de février sera un numéro bilan après un an après le début de la guerre. Depuis fin 2018, vous êtes général deuxième section, c'est-à-dire que vous n'avez plus de commandement. Dans le civil, on dirait que vous êtes de la réserve. Mais depuis le 24 février, vous n'êtes pas vraiment de la réserve, puisque de début de l'opération militaire spéciale, la guerre russe en Ukraine, vous êtes plus actif que jamais, puisque vous êtes consultant défense de la chaîne d'information en continu BFM, donc salarié de BFM. Donc vous êtes journaliste. Vous n'êtes donc pas un porte-parole du ministère de l'Armée ou du ministère de la du ministère des Armées ou de l'Armée elle-même, mais vous avez informé le cabinet de la ministre, puis du ministre, de ce poste, et vous vous sentez une exigence de loyauté à l'égard de l'autorité politique. Vous concevez votre rôle comme une forme de mission, celle de mettre à la disposition du citoyen la compétence que vous avez acquise sur le terrain et dans le cadre de votre travail académique. Et nous avons de la chance de vous avoir, car vous passez vos journées à BFM. Samedi dernier, vous avez été de 7h à 23h, et la nuit prochaine, vous allez participer à une émission spéciale élection américaine de 1h à 3h. Donc profitons du fait que vous avez un petit peu de temps à nous consacrer.
Merci. Oui, ça fait 258 jours que la guerre a commencé. Et en fait, depuis 258 jours, je vis cette guerre au quotidien, donc à la fois comme rédacteur en chef, puis vous l'avez compris, comme consultant de BFM. J'interviens beaucoup sur France Info, RCF, pour essayer d'expliquer ce qui se passe, et je peux vous dire que c'est pas simple. C'est pas simple, et je voudrais retenir quand même un mot qui était écouter nos peurs. Et c'est vrai que depuis 258 jours, cette guerre me fait peur. Il faut être réaliste, cette guerre doit nous faire peur au regard des conséquences que l'on connaît déjà de ce qui peut arriver. Voilà. Alors, je vais tâcher d'expliquer un petit peu tout cela. Alors, d'abord, effectivement, il y a eu la sidération du 24 février. Bon, on était un peu préalertés, et puis à 4h40, BFM m'a appelé, puis on dit, on passe en édition spéciale. Et ce que je peux vous dire, alors, c'est que, bien sûr, il est de bon ton de critiquer les chaînes d'information en continu. Je pense que, d'ailleurs, et c'est fondamental, mais je peux vous dire que c'est un métier, un travail absolument passionnant. Et tout d'abord, je voudrais quand même souligner, effectivement, certes, je ne suis pas journaliste de profession, mais j'ai une très grande admiration pour la profession de journaliste, et en particulier ceux qui vont sur le terrain. D'ailleurs, à BFM, nous avons perdu un jeune journaliste que, pour moi, j'ai dit qu'il était un soldat de l'information, c'est-à-dire nous informer, parce que nous avons le privilège, finalement, de vivre, vous l'avez souligné à plusieurs reprises, dans des démocraties libérales dans lesquelles on a accès à l'information, ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, en Russie. Tout d'abord, ce qui était très frappant, c'est que, et c'est ce qui fait la différence avec d'autres conflits, c'est que, en particulier dans les premiers jours, quand on avait ces flots de voitures, alors quand vous voyez Kiev, pour ceux qui connaissent Kiev, c'est une ville européenne. Vous avez des McDo, vous avez un métro, vous avez des flots de voitures, et il n'y a aucune différence. C'est une ville qui appartient à l'espace culturel européen. Et ce qui était très frappant, c'est que les premières images que l'on voyait, c'est que ce sont des gens comme nous. Et vous l'avez souligné, en particulier quand vous avez parlé des réfugiés donc qui ont quitté, hein. Il faut avoir l'idée que un quart de la population ukrainienne a dû fuir. 10 millions d'habitants. C'est exactement ce qui s'est passé en 1940 pendant l'exode. 10 millions de Français ont fui. La seule différence, c'est que pour nous, peut-être pour certains, c'était une réalité d'entre nous, mais ce sont des images en noir et blanc. Là, c'est pas des images en noir et blanc, c'est de la couleur avec le son. Et l'image. Et en particulier, le fait que, vous l'avez très bien dit, femmes, enfants et personnes âgées, puisque les hommes, d'abord, ont été mobilisés. Enfin, il y avait, bon. Et ça, c'est quelque chose qui, quand vous avez un quart de la population qui doit fuir. Donc, ce sont des gens comme nous. Alors, évidemment, ça contraste avec, vous l'avez souligné, des conflits comme, effectivement, bon, bah, l'Yémen, l'Érythrée, c'est quand même très loin. C'est, alors, bien sûr, ça pose le problème de notre relation aux réfugiés, à autrui. Mais c'est vrai, bon, la Libye, le Sahel, ils sont, on peut dire, en caricaturant, ils sont pas comme nous, alors que là, ils sont comme nous. Une maman avec des enfants, une maman blonde avec des enfants blonds, donc la transposition a été très frappante. Il y avait aussi une très différent, vous l'avez souligné, effectivement, on a connu en Europe, notamment ben, pour ceux qui ont connu l'ex-Yougoslavie, hein, mais l'ex-Yougoslavie d'abord c'était dans les années 90, l'ex-Yougoslavie n'était pas intégrée dans le système européen. On n'avait pas les chaînes d'information en continu et les réseaux sociaux, donc là aussi il y aurait tout un débat à voir quelle était l'influence. Bon, et puis là le problème c'est que la puissance agressive c'est la Russie. Et la Russie c'est quand même le premier pays au monde en termes de superficie, c'est la première puissance nucléaire au monde, c'est-à-dire qu'elle a plus de têtes nucléaires que les États-Unis. Bon, et avec un discours terrible puisqu'il s'agissait de dénazifier. Voilà. Souvenez-vous, il fallait éliminer pour Poutine la clique nazie qui était à Kiev. C'est des mots qui sont extrêmement durs. Et je pense en particulier pour nous, Européens et Français, dire dénazifier, ça a une vraie signification. Avec tout ce que cela peut représenter, puisque dénazifier, ben, ça veut dire... réprimer, éliminer, puisque on a eu le sentiment, en fait, il fallait que Kiev capitule. C'est terrible les mots de capituler quand on prend pour nos générations de militaires tous les conflits auxquels la France a été engagée, hein, ce qu'on appelle les opérations extérieures. À aucun moment, dire l'objectif final. De nos opérations et d'obtenir la capitulation. C'est rétablir la paix, rétablir une autorité civile, reconstruire avec plus ou moins d'échecs. Hein, ça, on peut en discuter. Mais là, l'objectif de Moscou était de faire capituler. La dernière fois qu'un État a capitulé, bah, je suis désolé, effectivement, c'est Berlin, enfin Reims et puis Berlin, 7 et 8 mai, où on dit la capitulation signifie la fin d'un État. C'est pas question même pas d'armistice ou de voilà capituler. Bon, et donc forcément pour nous Français ou militaires français, bah forcément que ça évoque les pires heures de la Seconde Guerre mondiale. Et autre point qui est quand même très particulier dans ce conflit, avec à la fois beaucoup d'images et en même temps le fait qu'on voit quand même assez peu ce qui se passe sur la ligne de front pour tas de raisons, mais ce sont en plus les mêmes territoires que ceux qui ont connu les pires batailles de chars de la Seconde Guerre mondiale. Quand vous prenez la bataille de Koursk, hein, c'est à peu près 3000 chars employés, et ce sont des dizaines de milliers de morts, ces paysages, hein, cette grande plaine centrale européenne dans laquelle vous avez l'hiver. Et très sincèrement, les images que l'on voit au quotidien ne peuvent que rappeler celles de la Deuxième, voire de la Première Guerre mondiale. Vous voyez, ce samedi, on avait des images de tranchées en cours de préparation par les soldats ukrainiens. Mais très sincèrement, on basculait l'image couleur en noir et blanc. Vous aviez les mêmes installations, je dis bien les mêmes installations, que les tranchées en 1916-1917 à Verdun. C'est quand même terrible de voir que plus d'un siècle. Et dans ce conflit, ce qui est terrible, c'est que finalement, vous avez à la fois l'hybridité de la guerre, hein, l'utilisation de toutes les technologies, de la désinformation, l'utilisation des réseaux sociaux, et puis les bombardements d'artillerie comme pendant la Seconde Guerre mondiale, les tranchées, avec des taux de perte qui sont extrêmement élevés. Avec aussi, et ça c'est terrible, c'est la violence du discours russe depuis le début. Alors, je sais que dans certains milieux, y compris en France, il est bon, après tout, m'entend de dire que peut-être que l'OTAN a exagéré, et ainsi de suite. Mais enfin, le problème, c'est qu'il y a d'un côté un État agresseur qui a manipulé, autour et qui a abusé, notamment autour de la question nucléaire. Bon, il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent que faire peur. Quand vous avez cette scène donc de Vladimir Poutine disant, alors au bout d'une très grande table, hein, à Shoigu, son ministre de la Défense, et Gerasimov, son chef d'état-major des armées, il faut mettre en œuvre les outils de la dissuasion. Alors vous dites là, on est dans du lourd. On n'est pas, c'est pas un conflit qu'on regarde à travers l'écran en disant c'est loin. Ça nous impacte directement. Sans dévoiler de secret, un matin, je suis en plateau et je vois une dépêche du Télégramme de Brest, hein, pour ceux qui connaissent, hein, le Télégramme de Brest, il est bien implanté, disant trois sous-marins nucléaires, les trois SNLE sont à la mer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que cela représente. En temps normal, nous avons, dans le cas de la continuité de la dissuasion, et je peux vous dire que, heureusement,
SNLE, c'est les
sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, c'est eux qui assurent la dissuasion. En fait, c'est ce qu'on appelle des armes de non-emploi. C'est-à-dire que la dissuasion nucléaire, c'est de dire à l'adversaire, si tu m'agresses, les dégâts que je vais t'imposer sont tellement importants que ça ne vaut pas le coup. Bon, c'est-à-dire qu'on est dans l'apocalypse, hein, dans la destruction totale de l'autre. Et quand vous apprenez que vous avez, nous, pour la dissuasion française, nous avons en permanence, hein, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins à la mer, voilà. Hein. Là, nous en avons 4 au total. Et là, nous en avons eu à un moment donné 3. Ça veut dire qu'on est, on n'est pas dans la petite crise, hein, où il faut envoyer un bataillon parachutiste en Afrique. On est dans l'existentiel, avec tout ce que cela implique. Et parce qu'en face, on a une Russie qui, ou en tout cas un Vladimir Poutine, qui a un discours d'une violence absolue, et je rejoins absolument ce que vous disiez, avec le refus de la primauté du droit. C'est-à-dire c'est le retour du rapport de force dans ce qu'il y a de plus brutal. Et le rapport de force est quelque chose de très militaire. Quand vous êtes militaire, vous étudiez en permanence le rapport de force. C'est-à-dire combien vous avez, ce qui... Et là, la négation totale, à la fois du droit, de la diplomatie, même si heureusement on arrive à conserver un lien de discussion nécessaire, mais avec ce que cela signifie. Ensuite, ce qui est terrible, c'est qu'on s'est inscrit dans la durée, c'est-à-dire 258 jours de guerre. Et quand on regarde, je regardais à l'instant une photocopie que j'avais de la carte du front au mois de mai, il n'y a pas beaucoup de différence avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est exactement dans la même situation que nos grands-parents ou arrière-grands-parents ont connu, par exemple, en 1915, avec un front qui n'évoluait pas, et puis les communiqués du grand quartier général en disant bon, on a progressé de 500 mètres. Bon, je calculais aujourd'hui sur une partie du front, les Russes ont avancé de 5 km en 10 jours. Dire quand vous voyez la taille de l'Ukraine, il va falloir du temps pour progresser. Enfin, il y a un point qui est essentiel, qui est aussi, c'est qui est la violence de l'armée russe. Alors là, c'est quand même quelque chose. D'abord, c'est une violence qui est systémique. Le système militaire russe est un système où la violence fait partie du quotidien du soldat. Bon, et cette violence qui est interne au fonctionnement de l'institution militaire et qui a toujours prévalu, se traduit sur le terrain, hélas, par un comportement, vous l'avez souligné, qui est totalement en dehors des règles du droit de conflit armé, c'est-à-dire l'utilisation systématique du viol, avec des témoignages épouvantables, le pillage systématique, les destructions systématiques d'écoles, d'installations sanitaires, et autres points particuliers qui sont quand même le transfert de population. Transfert qu'on pourrait dire qualifié de déportation. Alors, ce qui est dans la culture, hélas, dans la culture historique de l'Empire russe, hein, on l'a connu au temps des tsars, on l'a connu au temps de Staline, mais déporter une population ne pose aucun problème. Voilà. Donc, la question aujourd'hui qu'on peut se poser, c'est mais quelle perspective? Si aujourd'hui vous me dites mais vers quoi on va, je suis incapable de vous dire, les seules certitudes que l'on peut avoir, c'est que on va vers une guerre longue, avec peut-être, pour en tout cas cet hiver, le fait que les Russes veulent conserver la rive sud du Dniepr, qui devient en quelque sorte une frontière. Bon, mais peut-on accepter cet état de fait, même si l'hiver va non pas geler au sens propre le conflit, mais va ralentir les opérations. Vous aurez de toute façon la poursuite des bombardements par missiles, par drones, qui n'ont aucun impact militaire. Et là aussi, on peut faire un parallèle, et c'est ça ce qui est terrible dans ce conflit avec la Seconde Guerre mondiale. Quand Hitler largue, envoie ses V1 sur Anvers, sur un petit peu Paris à un moment donné, et sur l'Angleterre, ça n'a absolument pas changé le cours de la guerre. Ça provoque des victimes. Donc, ça va continuer avec le fait que aucune des deux parties, actuellement, n'est en l'état de vouloir négocier, même si les dernières informations disent que les Américains font pression. Alors, il y a un point qui est quand même assez important, c'est que, du côté occidental, nous, alors vous avez parlé de la loyauté à l'autorité politique, étant général en deuxième section, nous n'avons à aucun moment demandé à Poutine de partir. C'est-à-dire, on n'est plus dans la logique qui a prévalu dans les opérations, notamment on peut penser à l'Irak, l'Afghanistan ou la Libye, d'une volonté de changement de régime, hein, ou pour imposer une démocratie. Bon, non, très concrètement, pour Paris comme pour Londres ou comme pour Washington, bah bon, il y a Poutine, c'est comme ça. Il faut traiter avec lui d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas de et je dirais heureusement que on n'a pas la velléité, parce que vous imaginez les conséquences. Dire si Poutine, si on dit non, il faut de toute façon on ne traitera pas avec Poutine, il faut qu'il change. On voit la seule issue, c'est effectivement l'usage de l'arme nucléaire. En tout état de cause, ce qui va être intéressant, et le hasard du calendrier fait que demain je vous incite à suivre le discours du président de la République à Toulon, dont le président de la République va s'exprimer sur les questions de défense, avec justement que faire, quel outil de défense pour demain, quel contexte européen, vous l'avez souligné, c'est extrêmement compliqué, parce que on voit bien que certains partenaires européens considèrent que c'est d'abord l'alliance avec les États-Unis qui est la garantie de sécurité, mais entre-temps, cette nuit, il y a les élections de midterms, où le discours des Républicains n'est pas forcément très en faveur. Alors, les Républicains, a priori, continueront à soutenir, mais peut-être avec des financements moindres et ainsi de suite, donc en disant aux Européens, à vous d'assumer. Donc on voit qu'on va être confronté dans les jours, semaines, mois à venir, à des bouleversements géopolitiques fondamentaux. Et je conclurai par là, on a tous en mémoire. Alors, c'est amusant parce que je suis actuellement en train de conduire une session d'assistants parlementaires à l'Institut des hautes études de défense nationale. Quelle est la moyenne d'âge des assistants parlementaires que nous sommes en train de former? 22 ans. Donc, quand je leur demande, le 11 septembre, vous étiez où? Alors que ici, tous dans la salle, nous savons exactement, chacun d'entre nous, où nous étions le 11 septembre et comment nous l'avons vécu, soit par nos responsabilités ou soit par la perception. Et je considère très sincèrement que le 24 février, les conséquences du 24 février sont beaucoup plus graves que celles du 11 septembre. Alors le 11 septembre, on en a pris pour 20 ans, en considérant que cette phase s'achève avec le retrait catastrophique de Kaboul, à l'été 2021. Oui. Donc voilà, le 24 février ouvre une nouvelle période dans laquelle on n'a aucune certitude géopolitique et avec une multipolarité qui doit faire peur. Voilà. Le problème, il est là, c'est que c'est pas une multipolarité heureuse, c'est pas une mondialisation heureuse, c'est une multipolarité qui, hélas, est très inquiétante.
Merci beaucoup. Est-ce que les uns et les autres voulaient réagir à ce qu'ont dit les uns et les autres? Sébastien?
Simplement sur la. Je rebondis sur, en fait, sur votre sujet, parce qu'effectivement, l'Union européenne doit apprendre à se situer dans cette multipolarité. On avait, jusqu'à maintenant, jamais voulu trop réfléchir en termes géopolitiques. Et c'était pas dans l'ADN de l'Europe, et qui s'est constitué avec qui veut rentrer. Alors vous êtes candidat, bon, on regarde si vous reprenez les critères, vous reprenez le droit communautaire, et voilà, et on rentre. Lorsqu'on s'agrandit, et c'est la question qui est d'ailleurs, je pense, pour moi, un des grands tournants avec le fait qu'on donne le statut de candidat à l'Ukraine, c'est quelque part très osé, et quelque chose qu'on n'aurait jamais osé faire, et c'est peut-être un début de réponse, en tout cas, à cette recomposition du continent, mais ça, là, on prend délibérément, entre guillemets, le risque d'aller sur les plates-bandes de ce que Poutine considérait comme sa sphère d'influence, même pas que lui, d'ailleurs, enfin, la tradition, ce qu'on appelle le monde russe. Et donc, l'Ukraine, en quelque sorte, c'est pas à vous. J'ai trouvé que c'était on peut discuter ou pas si c'est le bon moment, si c'est qu'est-ce que ça va faire dans cette Union européenne qui va peut-être aller de 27 à plus tard à 36 et comment on va gérer tout ça. Mais le fait d'avoir donné lâché ce mot qui est quand même très lourd, et c'est pour ça qu'il fallait peut-être pas le faire comme ça non plus sous coup d'émotion, mais de reconnaître le statut de candidat à l'Ukraine, c'est déjà un changement dans la manière dont l'Europe elle-même se conçoit, puisque elle sait très bien qu'en faisant ça, là, elle franchit un certain Rubicon. Jusqu'à maintenant, la guerre était impensable, mais cette partie du continent était aussi un impensé de la construction européenne, puisque on était bien embarrassé en fait par les demandes d'adhésion qu'avait déjà l'Ukraine au niveau de Maïdan, et on estimait qu'un accord d'association assez étroit, c'était le plus loin qu'on pouvait aller. C'était implicitement une alternative à l'adhésion, et on voulait pas. Et d'ailleurs, avec la Géorgie, on a inventé cette notion de perspective européenne, qui permet de un peu de noyer le poisson, mais en tout cas de ne pas trop aller jusque dans le Caucase lorsqu'on veut considérer les frontières de l'Union européenne. Donc ça pose la question des limites de l'Union européenne. Et là, ce qu'on parle de limites, ça veut dire jusqu'où effectivement on est prêt à assumer notre rôle et à se positionner par rapport à d'autres puissances. Et effectivement, c'est ce qui avait inspiré le titre « Faire le monde dans un monde, enfin, l'Europe dans un monde de brut », c'est-à-dire faire l'Europe dans un monde qui ne reconnaît pas forcément les mêmes règles de droit que nous, qui a d'autres intérêts et arriver à nous-mêmes à les définir, à les reconnaître. Et c'est toute la difficulté qu'on a dans cette multipolarité pas forcément heureuse, c'est de voir où sont nous nos intérêts, quelle est c'était tout l'exercice qui a été fait de ce qu'on appelle la boussole stratégique, c'était de définir dans un même document à 27 est-ce qu'on arrive à avoir la même analyse de la menace. Alors face à Poutine, c'est à peu près clair, encore qu'avec la Hongrie on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, mais on y arrive à peu près à 27. Mais dès qu'on s'agit de rapports avec la Turquie, avec la Chine, avec même les États-Unis, avec d'autres, comment est-ce que on se positionne à 27 et comment est-ce qu'on arrive à garder cette unité? C'est vraiment le grand défi qu'il y a devant nous pour cette recomposition permanente du monde.
D'autres réactions? Etienne?
Oui, moi aussi, je suis marqué par votre conclusion. Moi, j'étais en CE1, aujourd'hui 11 septembre, donc j'étais en cours de français. Et que je considère que c'est très certainement l'événement le plus décisif de ma courte existence. En tout cas, des événements que j'ai vécu, celui qui a le plus influencé l'avenir de la France et de l'Europe d'assez loin, en fait. Donc vous entendre dire l'invasion, le début de l'opération spéciale russe, enfin de la guerre et de l'invasion russe, c'est probablement un enjeu et des conséquences plus fortes. Ça me marque beaucoup. Mais en ayant en tête les repositionnements que ça oblige, votre affection sur l'Europe qui doit se définir non seulement avec un langage de paix, mais aussi un langage de puissance, qu'elle se voir confrontée directement par un pays qui n'a pas du tout la même détermination dans le respect du droit, par exemple, comment est-ce que ça affecte forcément le positionnement éthique? En fait, c'est ça vraiment ma préoccupation aujourd'hui. C'est dire bien, l'Europe ne peut plus être juste un rêve de paix, parce qu'elle est confrontée par à des acteurs qui sont pas du tout dans ce référentiel-là. Mais que, il me semble que ce qui a été exposé là, ça équivaudrait à dire, et bien dans ce cas, il faut l'abandonner. Si le rapport dans lequel on est en train de rentrer contre nous-mêmes, c'est un rapport de force, comment est-ce qu'on préserve l'idéal de paix européen? Ça fait 8 mois. Peut-être que je regarde pas beaucoup BFM, je veux dire, je regarde pas beaucoup la télé en général, en fait, mais j'ai pas l'impression dans la presse écrite, par exemple, d'avoir vu récemment des articles concrets qui ne mentionnaient la paix même comme espoir. Si l'Europe doit essayer de tenir à la fois la puissance et la paix, est-ce qu'il y a un moment, il faut pas aussi l'exprimer dans ces deux termes? Voilà, c'est un peu ça la question qui m'habite.
C'est le paradoxe auquel nous sommes confrontés, et en particulier, il y a quand même un élément qui est fondamental, c'est la question effectivement de la dissuasion nucléaire, qui est l'apocalypse absolue. Et vous savez d'ailleurs que les positions du pape François sont très hostiles, hein, à l'arme nucléaire, mais là on est rendu à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire que, heureusement, que, alors je ne parle pas des États-Unis, c'est un autre problème, mais que la France est une puissance nucléaire, parce que cela permet, en fait, de maintenir un minimum de dialogue avec, avec Poutine. Très sincèrement, nous n'aurions pas l'arme nucléaire, nous n'aurions pas cette capacité de dissuader, je ne sais pas où on en serait aujourd'hui. Et c'est cette dimension qui... Alors c'est terrible, hein, et on est au centre Sèvres, hein, on n'est pas à l'école militaire, mais de se dire que pour la paix, alors c'est effectivement cette vieille citation latine, si vis pacem, para bellum, mais on se rend compte qu'effectivement, si l'Europe veut pouvoir poursuivre son projet de construction de réconciliation, elle doit effectivement penser en termes de puissance, non pas en termes de puissance agressive, mais en termes de puissance capable de dire non. Alors, parce qu'il y a la Russie, mais il y a aussi, ne l'oublions pas, la Chine, il y a aussi la Turquie. C'est-à-dire, on est confronté à des puissances montantes pour qui tout le travail de construction de la primauté du droit est totalement remis en cause. Là, c'est quelque chose qui, quand même, doit nous interroger. Et je dirais en particulier... nous chrétiens en quelque sorte, parce que la construction de cette Europe, c'est bien cette construction que le droit le prime sur la force. Or là, aujourd'hui, nous assistons de toute façon au refus de la part de la Russie, de la part de Poutine, hein, parce qu'il faut aussi distinguer entre, bien sûr, le Poutine, le premier cercle, et le peuple russe. Hein, bon. Mais du refus d'un dialogue, or, le seul dialogue qu'ils admettent, c'est un dialogue dans lequel Kiev est obligé de renoncer, enfin, un dialogue de force. Et je suis désolé, mais dans l'histoire, c'est ce qui s'est passé en 1938 à Munich, hein. On a cru que, en cédant, on allait gagner la paix. Au final, on a ni gagné la paix, on a le déshonneur. Et tous ces exemples-là sont essentiels à comprendre, d'autant plus qu'ils sont totalement intégrés dans la pensée russe. Là aussi, on n'a pas voulu, hein, on a penser que le doux commerce, hein, que les gazoducs, tous les échanges feraient que tout ça permettrait de passer par la trappe les questions de nationalisme, questions de mais non, le problème il est là, c'est que on a voulu lire dans la réflexion politique autour de Poutine, hein, qui est au pouvoir depuis 2000, on a voulu lire que ce qui nous intéressait et pas le reste. Notamment, par exemple, en 2007, vous avez la conférence de Munich. Chaque année, il y a une conférence sur les questions de défense à Munich. Un peu la grand-messe, un peu l'équivalent du Davos, hein, sur le plan économique. Et en 2007, le discours de Vladimir Poutine, or ça ne faisait que 8 ans qu'il était au pouvoir, était extrêmement agressif. Et on n'a pas voulu, on n'a pas su, on a voulu voir que le côté positif. C'est vrai, mais on n'a pas voulu voir le côté obscur et aujourd'hui, on le prend en pleine poire.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui.
Un micro circule, je me permets de reprendre la parole pour indiquer aussi le mode d'emploi. Habituellement, nous prenons 2 ou 3 questions à la fois. Voilà, donc un micro circule, Brigitte le tient, va le tenir plutôt. Et vous levez la main et on vous donnera la parole. Donc
là, là et là-bas.
Merci beaucoup. Ma question porte sur la vulnérabilité de nos démocraties libérales au caractère anxiogène de la guerre. Il y a une vulnérabilité à double fond, on peut dire. Déjà, le fait que le pouvoir exécutif soit exposé à l'opinion publique par le fonctionnement de la démocratie, mais aussi une vulnérabilité plus insidieuse du fait que cette opinion publique, enfin la nôtre, nous sommes, il me semble, particulièrement incompétents pour comprendre ce qu'est une guerre. Et par comprendre la guerre, je veux dire, pas comprendre théoriquement derrière son écran de télévision, mais on ne sait pas ce que c'est que de fuir sa maison sous un bombardement ou dans une attaque ennemie. Et ma question, c'est est-ce que c'est suffisamment réfléchi, ce facteur de l'opinion publique? On a vu avec la guerre au Vietnam l'opposition de l'opinion à la guerre. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste de la question, mais j'ai l'impression que ce n'était pas négligeable dans la manière dont cette guerre s'est terminée. Et est-ce que, avec ce qu'a souligné Étienne sur la très très forte polarisation qui est amplifiée par les réseaux sociaux, et voilà, ça n'enlève rien au mérite des journalistes qui travaillent sur les chaînes d'information continue, mais voilà, est-ce qu'on ne joue pas un peu avec le feu? Je ne sais pas quelle autre manière d'envisager le traitement de cette guerre, quelle responsabilité de nos politiques, de nos journalistes pour désamorcer cette accélération de la peur. Parce qu'on ne sait pas, là quand le général dit on ne sait pas où on va, j'ai l'impression qu'aussi dans l'opinion publique, on ne sait pas où on va. Est-ce qu'il y a une réflexion sur la gestion de cette opinion? Merci beaucoup.
Merci.
Oui, bonjour. Moi, je retiendrai la parole du général Pellistrandi, si vis pacem, para bellum. Il ne faut pas oublier que les Russes sont de grands joueurs d'échecs et qu'aux échecs, il s'agit de placer ces pièces au bon endroit et au bon moment. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'en ce qui concerne l'Ukraine, Poutine ne cherche qu'une chose, c'est conquérir du terrain. Il en a besoin. Et la deuxième chose, mais là je n'ai pas d'information, donc c'est une supposition, c'est une hypothèse que j'émets, est-ce qu'il y a du pétrole dans ces coins-là? Et est-ce que Poutine n'est pas en train de rechercher à accroître sa puissance pétrolière? Merci.
Merci beaucoup. Ici devant.
Bonsoir. Oui, j'ai une amie russe et je voudrais être son porte-parole ce soir. Il paraît que donc pour les Russes, c'est une guerre entre les États-Unis et la Russie, que l'armée ukrainienne est essentiellement constituée de mercenaires albanais et polonais payés par les États-Unis, 4 000 euros la journée. Qu'en pensez-vous? Est-il vrai que les États-Unis voulaient que les bases de l'OTAN soient installées en Crimée? Est-il vrai que les États-Unis voulaient mettre des missiles à Kharkiv, c'est-à-dire pouvant atteindre Moscou en 4 minutes? L'OTAN a violé tous les accords signés entre les États-Unis et la Russie au moment après la disparition de l'Union soviétique en 1991 pour que l'OTAN ne s'étende pas à l'Est. Pouvez-vous me dire la présence de l'OTAN en 1991 et la présence de l'OTAN aujourd'hui? Et quand le Congrès américain vote le budget pour la guerre contre l'Ukraine, demande-t-il au gouvernement ukrainien de rendre des comptes sur la manière dont il dépense cet argent? Voilà. Donc c'est les questions.
Merci beaucoup. Il y a une bonne avalanche de questions. On va faire une première salve de réponse. Qui veut?
Bon. Alors j'ai commencé pour les dernières et avant-dernières questions. Non, là, je suis désolé, c'est de la désinformation la plus totale. C'est le peuple ukrainien. Et ça, c'est étonnant. Quand vous savez que l'Ukraine, l'histoire de l'Ukraine est complexe, puisqu'il y a une partie à l'ouest, d'ailleurs, qui avait été polonaise, hein, l'Empire austro-hongrois, voilà, et la partie, effectivement, à l'est, qui est plutôt russophone. Bon, mais... Alors, d'abord, vous l'avez rappelé, l'Ukraine est en guerre depuis 2014. C'est quelque chose qu'on a oublié. Bon, voilà. Mais ce qui est étonnant, c'est que le sentiment national ukrainien a été accéléré avec une volonté très claire qui est de regarder vers l'Ouest. Bon, donc dire qu'il y a des mercenaires albanais, polonais, non, je suis désolé, c'est le peuple ukrainien qui est en armes. Alors, ça, de manière très claire, qu'il y ait quelques milliers de combattants venant de pays européens, bien sûr, mais il y a eu les brigades internationales en Espagne en 1936, de même que vous avez eu, y compris d'ailleurs des Allemands qui ont combattu l'Allemagne nazie. Bon. Mais globalement, c'est la nation ukrainienne qui est en armes. Bon, ensuite, dire que les Américains voulaient installer des missiles à Kharkiv, mais là, c'est, je suis désolé, là encore, c'est de la désinformation. Qu'est-ce qui se passe, par contre, depuis 2014 ? C'est que les Ukrainiens se sont rendus compte de la faillite du système militaire soviético-russe. Et regardez le contraste qu'il y a quand vous voyez ces officiers généraux russes qui ont la soixantaine dépassée, qui sont totalement dépassés par les événements, avec, de l'autre côté, un système... Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de corruption en Ukraine, et ainsi de suite, mais qui a totalement basculé sur un autre modèle. Et d'ailleurs, c'est terrible pour les Russes de se rendre compte...
Si vous pouvez éviter de parler, s'il vous plaît.
Bon.
Monsieur, s'il vous plaît.
Ce qui est terrible pour les Russes, c'est de se rendre compte de la faillite de leur système militaire. Vous rendez, enfin, c'est un truc qui est complètement fou. Vladimir Poutine a investi des milliards. Alors ça rejoint, il n'y a pas de pétrole dans les terres noires en Ukraine, et il a suffisamment de gaz et de pétrole et de matières premières dans toute la Russie, ce qui fait que si c'était bien exploité, la Russie pourrait être au niveau du de développement, bon. Donc, ceci pour dire que c'est la faillite totale du système militaire soviéto-russe. Avec un mépris total, je l'ai dit, il y a une violence systémique à l'égard des soldats. Il faut voir, quand même, cette mobilisation partielle, c'est épouvantable. Des hommes de 30 à 40 ans, bon, qui ont été envoyés avec un trier, une vieille Kalachnikov, et on dit aux familles, c'est vous qui devez acheter la trousse de secours, un truc comme ça. Le problème, c'est que le peuple russe est très résilient, et que, hélas, il supporte facilement les épreuves. Mais aujourd'hui, non, à aucun moment, les États-Unis n'ont envisagé d'installer des bases en Crimée, hein. Non, là, il faut. Je suis très sérieux là-dessus. Le problème, c'est qu'il y a une véritable désinformation, conduite en Russie, mais ça, c'est le problème, je dirais, interne en Russie, mais qui est exporté à l'extérieur. Et quant à Poutine n'a pas. Enfin, c'est pas une question de kilomètres carrés. De toute façon, déjà, la Russie, elle a suffisamment de kilomètres carrés à soutenir. C'est le fait de la négation, chez Poutine, mais chez d'autres penseurs. Hein, il y avait notamment Douguine, hein, dont la fille est morte dans un attentat. Du fait que l'Ukraine n'a pas vocation à exister en tant qu'État indépendant et souverain, voulant regarder ailleurs que vers la Russie. Et pour revenir, quand on parle sur l'extension de l'OTAN en 1991, vous seriez polonais, vous seriez estonien, vous seriez lituanien. Mais vous n'avez aucune envie de regarder vers Moscou. Et c'est bien ça ce que vous soulignez, le problème, c'est que Moscou a été incapable de construire un système de coopération sur un pied d'égalité avec son environnement. Au point que vous voyez le Kazakhstan dire « j'accueille ». Donc Kazakhstan ancien, ayant fait partie de l'Union soviétique, le président du Kazakhstan disant que les hommes russes qui viennent sur mon territoire, parce qu'ils veulent fuir la mobilisation, sont les bienvenus. On oublie que la plupart des pays en ce temps, dans toute cette zone sud de l'ex-Union soviétique, n'ont pas envoyé de soldats, n'envoient pas d'armement, et ne soutiennent de manière extrêmement modérée l'engrenage dans lequel Vladimir Poutine voudrait les entraîner.
Merci. Sébastien, est-ce qu'on ne joue pas avec le feu, avec l'opinion publique ?
Moi, ce qui est frappant, c'est que dès que la guerre a démarré, une des premières mesures européennes prises en termes de sanctions, c'était d'arrêter la diffusion de RT et de Spoutnik dans l'Union européenne, ce qui était une décision effectivement qui n'avait pas eu tout de soi, qui d'ailleurs a été attaquée devant la Cour de justice européenne, qui a donné raison au Conseil d'avoir pris cette décision qui est effectivement contraire à la liberté d'expression, mais qu'on voit bien effectivement que la propagande, il n'y a pas d'autre mot, sur ces chaînes, en tout cas pour les quelques extraits qu'on peut parfois encore en voir. Les intentions de Vladimir Poutine sur l'Ukraine par rapport au pétrole, je ne dirais pas sur ce terrain-là, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il souhaite avoir une bande continue de terre et un accès à la mer Noire, parce qu'il pourrait avoir un meilleur contrôle de cette mer et inversement priver l'Ukraine de ses débouchés et de pouvoir exporter ses richesses agricoles. Donc ce serait effectivement déjà un vrai affaiblissement de économique de l'Ukraine s'il atteignait et arrivait à atteindre jusqu'à la Moldavie ainsi. Mais je voudrais moi peut-être surtout répondre à la question sur notre vulnérabilité et la question que je me posais, c'est est-ce qu'on a peur de la guerre, mais est-ce qu'on n'a pas peur nous-mêmes d'être puissants? Est-ce qu'on n'a pas peur de vouloir être une puissance au sens honorable du terme? Pendant la présence française du Conseil de l'Union européenne, dans la devise, il y avait le mot puissance, qui d'ailleurs a été traduit en anglais en strength. Pas power, c'était strength, ce qui peut-être était plus facile à entendre, mais c'est un mot qui fait peur dans d'autres pays. Je ne sais pas si beaucoup d'autres États de l'Union européenne reprendraient comme ça le mot puissance dans leur devise. C'est un terme un peu nouveau dans le langage européen. Mais est-ce qu'on est prêt effectivement à s'en donner les moyens? Est-ce qu'on est prêt à voter les budgets qui vont avec? Est-ce qu'on est prêt à faire c'est pas un jeu innocent d'être puissant, et je pense pas seulement à l'effort de guerre, mais par exemple lorsqu'on veut vraiment être moins vulnérable sur le plan des matières premières et de notre approvisionnement, lorsqu'on veut on parle de véhicules électriques avec des batteries. Et lorsqu'on veut faire des batteries, il faut du lithium, il faut du cobalt, il faut du graphite, mais du lithium, il y en a beaucoup en Europe. On peut en trouver partout. Est-ce qu'on est prêt à ouvrir des mines de lithium en France, ce qui veut dire de l'acide, ce qui veut dire c'est très sale, hein, une mine de lithium, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus propre à avoir au fond de son jardin. Donc, est-ce jusqu'à quel point on est prêt à assumer tout ce qui va avec recherche d'être moins dépendant de puissances qui voudraient exploiter notre vulnérabilité, c'est la question qui est posée à nos démocraties. Oui.
Merci beaucoup. On a encore 7 minutes.
Est-ce que je peux dire un petit mot? Toujours pas un spécialiste. Hein. moi, j'aimerais bien rapprocher peut-être la première et la dernière question. Vous avez mentionné l'interdiction de Spoutnik et de RT légitimés par le pouvoir judiciaire en Europe. Il y a vraiment, pour moi, une question de comment est-ce qu'on assume ça en temps de guerre. Et comment on assume ça, en fait. C'est se dire, on est prêt à, pour des raisons qui nous semblent pertinentes, de restreindre des libertés, donc par exemple ici, une forme de liberté de la presse ou une liberté d'expression. Et comment est-ce que c'est pas foncièrement une contradiction avec l'idéal européen ou l'idéal démocratique? Et comment publiquement et à l'international est-ce qu'on est prêt à marquer et à signifier cet arbitrage et sa légitimité? On parle du Kazakhstan qui essaye de, autant qu'il le peut peut-être, de garder une position de réserve. Mais en symétrique, moi ce qui me frappe, c'est que la majorité des pays du monde essaient de garder une position de réserve. Hein. Que même des alliés de longue date, des États-Unis. C'est pas Israël ou l'Arabie Saoudite qui se prononcent beaucoup sur l'Ukraine. Donc, je pense que pour ce qui est de l'espérance démocratique qu'on peut avoir, pas juste pour nous-mêmes, mais par exemple, pour parler d'un pays qui a eu ses élections récemment, le Brésil, je pense que c'est important et nécessaire et fondamental, et aussi pour nous-mêmes, de manifester ces arbitrages plus clairement. Je sais pas si... Enfin, voilà, j'ai dit, je suivais pas forcément de très très près ce genre de choses, mais cet arbitrage de la Cour de justice européenne, qui, dans cette salle, étaient au courant? On a deux mains qui se lèvent. Trois. Bah, je suis désolé, c'est pas énorme en proportion. Donc je dis pas « Ah, c'est la faute de quelqu'un ». Je dis « Comment est-ce qu'on manifeste les arbitrages démocratiques ?» Et que, justement, avec vos questions, monsieur, de la fin, en disant bah, « Le peuple russe peut parfois, pour des raisons aussi de mésinformation, ressentir ça comme une guerre entre la Russie et les États-Unis. Bah, » bah, si on manifeste pas comment la démocratie fait des arbitrages de ce type, et que ces arbitrages peuvent être légitimes, c'est sûr qu'on peut ne passer que pour, ça ne peut passer que pour du cynisme. Et ça, c'est un vrai problème.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et la question que je voulais poser, c'était que ce qui distingue les démocraties, c'est la primauté du droit. Et on tourne autour de ce problème depuis le début de cette conversation. Cela fait partie de nos fameuses valeurs. Or, justement, l'Europe, avec la complicité parfois des États-Unis, n'a pas respecté le droit. Je pense notamment au Kosovo, et mon général, vous pourrez peut-être nous répondre là-dessus. Nous sommes sortis du droit, là, tout simplement, avec la complicité des Américains. Et les Russes n'ont pas oublié cela. Et c'est pas la première fois. Et à chaque fois, on a un discours très ambigu sur le droit. Sur le droit international, sur le droit en général. Et on fait référence à des valeurs que finalement nous ne respectons pas nous-mêmes, et en particulier en Europe. Alors évidemment, les Russes sont en droit de s'interroger. Une fois, c'est le droit, ça marche pour nous, et ça marche pas pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un distinguo subtil qui m'échappe totalement, à vrai dire.
Alors, le problème, dire, c'est la négation par Poutine et par son premier cercle, de l'existence d'un État ukrainien souverain, indépendant, libre de ses alliances. Le problème, il est là. C'est-à-dire, Poutine n'a jamais admis le processus démocratique enclenché, notamment lors de l'Euromaïdan, où les Ukrainiens ont dit très clairement qu'ils voulaient regarder ailleurs que vers Moscou. Bon. Alors, bien sûr, les Russes dire, oui, vous êtes intervenu au Kosovo, oui, vous êtes intervenu en 2011 en Libye, au mépris du droit international. C'est vrai. Bon, on peut gloser là-dessus, et il y a toute une littérature très solide là-dessus. Bon, voilà. Maintenant, la problématique, c'est que les arguments utilisés par Poutine pour justifier son opération militaire spéciale sont totalement, irregardables au regard du droit international. C'est tout. Il a envahi un État souverain. Il n'a pas c'est pas. Il n'est pas. Souvenez-vous quand il y a eu les émeutes. Alors, je ne sais plus si c'est au Kazakhstan, dans quel pays où les soldats russes sont intervenus. Au Kazakhstan. Mais c'était à la demande des autorités du pays. Bon. Là, citez-moi le nom d'un dirigeant ukrainien élu démocratiquement, ayant demandé à Moscou de venir intervenir parce qu'il y avait un génocide. Les termes employés, il faut relire. La problématique, c'est que, hélas, malheureusement, nous manquons de russisants. C'est-à-dire que si on se contente de lire ce que l'agence TASS, hein, vous faites TASS.com et en anglais, c'est très intéressant à regarder. Bon, comme RT. Bon, dire. Les motifs invoqués par Vladimir Poutine au regard de l'opération spéciale militaire, de même que le fait que, en 2014, l'Europe, / Union européenne, OTAN, ou ainsi de suite, bon, a laissé faire sur la Crimée là-dessus, bah, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on en paye les conséquences. Mais dire, il n'y a aucune justification au regard du droit international de cette opération spéciale militaire. Bon, bah, il y a un moment donné. Alors, la seule chose, c'est que dès le 24 février ou dès le 25, effectivement, les États-Unis ont très clairement dit qu'il n'y aurait pas un GI sur le territoire ukrainien. Je rappelle, c'était la question qui se posait en 39, faut-il mourir pour Danzig, qui aujourd'hui s'appelle Gdansk. Bon. Donc, à partir du moment où l'OTAN et l'Europe ont considéré qu'ils ne mettraient pas un soldat sur le territoire ukrainien, et d'ailleurs, dans les premières semaines, Les Ukrainiens demandent à corps et à cri ce qu'on appelle une no-fly zone, c'est-à-dire en fait que les avions russes ne puissent pas bombarder. Bon, on a refusé. Bon, là-dessus, mais au regard du droit international, qui peut justifier ici cette opération militaire spéciale? Non, personne, à part Vladimir Poutine.
Il est 20h45, donc cette soirée se termine. Merci pour tous ces questions, ces débats très intéressants. Le prochain mardi d'été public a lieu le 8 décembre, c'est ça? Le 6 décembre, pardon. Et il portera sur les affaires de l'Église. L'Église est-elle capable de se réformer? Merci beaucoup.